Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le gouvernement a dévoilé mardi les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Nous y reviendrons avec la députée européenne, questeur du Parlement européen, Fabienne Keller. La vacance présidentielle au Liban, pas de nouveau président élu à l'issue de la 9e séance électorale ce matin. L'Arabie Saoudite abrite le premier sommet sino-arabe. Plus de 30 dirigeants de pays et d'organisations internationales sont au rendez-vous. Retour sur une première dans l'histoire du Maroc, la qualification des Lions de l'Atlas en quart de finale du Mondial de football. Le match Maroc-Portugal aura lieu samedi à 16h pour une place en demi-finale. Le Maroc représente très bien le football africain, nous dira Franck Orokoti, journaliste directeur d'Africa Top Sport au Togo. La mort dimanche dernier de Betul Fekar Lambiot. Elle a été la première femme musulmane à participer à l'organisation du culte musulman en France. La première ministre a dévoilé mardi dernier les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration en France. Elisabeth Borne estime que l'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible, pas plus réaliste que ne l'est une immigration dérégulée. Nous y revenons avec la députée européenne, questeur du Parlement européen, Fabienne Keller. Elle évoque un texte équilibré. Interrogée sur la politique européenne de l'immigration, elle estime qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle nous dira pourquoi. Entretien avec Fabienne Keller.
Je trouve que cette perspective, enfin ce nouveau projet de loi sur l'immigration, c'est un texte très équilibré qui à la fois marque la volonté de la France, de la République, de mieux appliquer des règles d'ailleurs européennes ou nationales relatives au droit d'asile, et puis prendre en considération aussi mieux les migrants, leur réalité. Par exemple, en envisageant le droit à l'accès au travail pour les personnes, même en situation de demande, ou en reconnaissant qu'il y a des personnes qui travaillent sur notre territoire sans statut et qu'il doit être mis fin à cette situation en leur reconnaissant un statut puisqu'il contribue à l'économie et au fonctionnement de la société française. Donc je trouve un texte équilibré et un débat qui est important. Parce qu'en l'absence de débat, ce sont les partis extrêmes en fait, qui dictent en quelque sorte l'opinion publique.
Le ministre de l'Intérieur fait état d'un texte qui mêle fermeté et humanité. C'est également ce que vous constatez ?
Oui, plutôt que fermeté, je dirais application des règles. On a des règles qu'on n'est pas toujours en mesure de mettre en place. C'est le principe d'une république, hein. Il y a des lois, elles doivent être mises en œuvre. Ce n'est pas simple, mais ça doit être le cas. Et puis, mieux traiter les personnes qui rejoignent notre territoire pour se protéger, pour fuir un conflit, pour rechercher une vie meilleure. Cela ne mérite pas d'en souffrir, voire d'en perdre la vie, comme on le voit pour certaines traversées en Méditerranée. Donc les accueillir avec humanité, les traiter avec de manière efficace, c'est-à-dire ne pas laisser traîner les personnes dans les procédures sans perspective sur leur avenir, mieux s'organiser, prendre des décisions, bien sûr, permettant l'appel, le droit d'appel, hein, qui est un droit très important, respecter, bien mettre en œuvre tous les droits des personnes. Donc c'est oui, cet équilibre qu'on reconnaît bien à travers la présentation. Ce texte est porté par deux ministres, hein, Olivier Dussopt, ministre du Travail, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
Et le fait de favoriser l'immigration de travail, cela permettrait aussi de changer de regard sur ces personnes ?
Je suis un petit peu, prudente sur l'immigration de travail. Oui, il est important d'expliquer quels types de compétences sont utiles à la France. Mais il ne s'agit pas non plus d'avoir un effet de peine qui pénaliserait les pays d'origine. Par exemple, il y a des compétences très recherchées, les docteurs, les ingénieurs dans le numérique. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté les pays d'origine. Donc moi, je propose qu'il y ait une mesure d'accompagnement, qu'il y ait le développement de formation dans ces compétences déficitaires, en fait, dans de très larges espaces, et qui permettrait de compléter l'appel à candidats, l'autorisation de venir en Europe, parce qu'on a certaines compétences ou certains talents.
Vous êtes députée européenne, questeur du Parlement européen. Vous portez quel regard aujourd'hui sur la politique européenne de l'immigration ?
Elle ne fonctionne pas bien. Nous avons une frontière commune Schengen, mais la mise en œuvre des règlements européens se fait à l'échelle nationale. Il n'y a pas assez de confiance entre les États membres, pas assez de coopération. Il y a le nouveau pacte sur l'immigration qui nous est proposé. Je fais tous mes efforts comme centriste pour faire avancer ce pacte avec une vision équilibrée, comme l'est le texte français. Moi, je suis membre de la majorité présidentielle entre humanisme et respect des personnes qui est fondamental, puis application plus satisfaisante des règles. Voilà, nous avançons, mais ce n'est pas le domaine où la coopération européenne est la plus habituelle, enfin traditionnelle. Donc il faut construire pas à pas cette confiance entre, par exemple, les pays de première entrée, l'Italie, l'Espagne, Chypre, la Grèce, Malte, et puis les pays de destination. Parlons de la migration, construisons des solutions, comprenons mieux les différents motifs pour lesquels des personnes ne rejoignent, mais faisons-le de manière apaisée, factuelle et dans le respect dû à chaque personne.
Fabienne Keller, députée européenne, questeur du Parlement européen. Toujours pas de président au Liban. Les députés libanais se sont réunis ce matin au Parlement à Beyrouth pour une 9e séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Le prochain rendez-vous électoral pour les députés est fixé à jeudi prochain. L'Arabie Saoudite abrite le premier sommet sino-arabe. Plus de 30 dirigeants de pays et d'organisations internationales sont au rendez-vous. Le président chinois est arrivé hier à Riyad pour une visite officielle de 3 jours. Il assiste à ce sommet ainsi qu'à 2 autres réunions internationales, le sommet saoudien-chinois et le sommet pays de Golfe. Chine. En Afghanistan, les talibans ont procédé à une exécution publique hier. C'est la première exécution publique depuis leur retour au pouvoir il y a plus d'un an. Elle a eu lieu dans l'ouest du pays, à Farah. La personne tuée a été reconnue coupable du meurtre d'un homme perpétré en 2017. La porte-parole du secrétaire général de l'ONU fait part de sa profonde préoccupation. Elle appelle au retour du moratoire sur la peine capitale en Afghanistan. 2 manifestants ont été tués par balle, une vingtaine blessés en Irak. C'est arrivé lors de heures avec les forces de sécurité pendant un rassemblement dans le sud du pays, dans le centre de la ville de Nasiriyah. Un rassemblement pour protester contre la condamnation à la prison d'un militant. La grève des boulangeries entamée hier en Tunisie est suspendue. C'est ce qu'indique la chambre syndicale des propriétaires de boulangeries. Son président, Mohamed Bouanan, évoque une suspension jusqu'au 10 janvier prochain. Cela en attendant la mise en application des promesses du gouvernement, dont le règlement de la subvention de 260 millions de dinars cumulés par l'État auprès des boulangeries. Le dossier des visas sera au menu du déplacement de la ministre française des Affaires étrangères au Maroc les 15 et 16 décembre prochains. Catherine Colonna s'entretiendra avec son homologue marocain Nasser Bourita. Il s'agira aussi de préparer la visite d'Emmanuel Macron au Maroc prévue au début de l'année prochaine. Retour sur une première dans l'histoire du Maroc. La qualification mardi dernier des Lions de l'Atlas en quart de finale du Mondial de football. La rencontre Maroc-Portugal aura lieu samedi prochain à 16h, un match pour une place en demi-finale. Le Maroc représente très bien le football africain, nous dit Franck Rocotti, journaliste, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Et il revient tout d'abord sur cette victoire du Maroc.
C'est un point très important, c'est une grande surprise d'ailleurs, parce qu'on ne croyait pas à une victoire des Lions de l'Atlas devant ces Espagnols. Parce que déjà, lorsque vous voyez un peu dans la sélection de l'Espagne, vous allez trouver de très grands joueurs qui ont évolué sur des matchs internationaux, notamment l'Europa League, la Ligue des Champions, qui appartiennent à de grands clubs du monde, notamment le Real Madrid et puis surtout le FC Barcelone. Maintenant, voir cette formation du Maroc gagner l'Espagne, c'est un exploit. Et également, s'il faut parler de cette victoire, il faut également voir déjà la performance que le Maroc a fait au niveau de sa poule. Donc je crois qu'à partir de là, on se disait qu'il y a un petit espoir du moment où la poule était bien relevée. Mais le Maroc s'en sort avec la première place. Je crois que là déjà, on se disait mais le Maroc peut faire quelque chose. Au-delà, On a perdu Harry, qui est un bon joueur du Maroc. Également, il y a certains joueurs qui étaient absents face donc à cette Espagne. Ben, on se disait si effectivement on pouvait passer justement à cette formation espagnole. C'est dans un premier temps avec le Maroc. La déception reste au niveau du Sénégal parce que le Sénégal étant la sélection championne d'Afrique, on se disait que le Sénégal allait présenter une belle facture même si on a connu l'absence de Sadio Mané. On croyait justement donc à cette force et à cette dynamique de l'équipe sénégalaise, mais elle a montré autre chose carrément par rapport donc au Sri Lanka. Je crois que là aussi on peut trouver des excuses parce qu'il y a des absents. Notamment Ganagay, il y a Kalilou qui n'a pas joué, il y a également un autre joueur important qui n'était pas là. Donc du coup, on peut se dire que ces trois joueurs qui représentent justement cette sélection étant absents, le Sénégal ne pouvait rien devant donc justement à Kane, à Saka et les autres joueurs de la sélection anglaise.
Vous évoquiez cette victoire du Maroc, le Maroc qui jouera pour une place en demi-finale contre le Portugal samedi prochain à 16h. Il n'y aura pas de favori.
Oui, il n'y aura pas de favori. Ça sera un peu 60-40 parce que quoi qu'on dise, le Portugal est habitué donc de la compétition. Le Portugal a de très grands joueurs. On a vu Cristiano Ronaldo sur le banc de touche, mais le Portugal a cartonné. Donc cela veut dire que le Portugal a des valeurs, a des ressources, a des armes pour passer à tout moment, ils peuvent marquer. Mais il faut compter également sur justement sur le Maroc là qui a déployé également de très bons jeux, notamment avec Boufal, sans oublier également le joueur de Chelsea qui est Ziyech, qui a appelé au dernier moment parce qu'en temps il n'a pas été voulu donc en sélection. Et également, il faut compter sur ce staff technique qui fait un bon boulot, un excellent boulot, qui sait également quel joueur placer et à quel moment il faut justement se propulser vers l'avant pour titiller l'adversaire. Notamment, également, il faut parler de Saïd, sans oublier Bounou. Hein. Donc, justement, on peut dire que le Maroc a également des valeurs qui vont faire valoir justement face à cette formation du Portugal.
Parce que ce mondial de football 2022 a déjoué de nombreux pronostics depuis le début de la compétition.
Oui, on peut parler de l'Allemagne qui est un habitué. Et ça fait très longtemps que l'Allemagne n'est plus sortie au premier tour. Cette fois-ci, ça a été fait. Donc on peut dire que c'est une grande surprise déjà. L'Espagne également est rentrée à la maison. Même s'il y a également des grands qui sont restés, qui sont toujours là, en l'occurrence le Brésil, la France, l'Argentine et les Pays-Bas. Donc je crois que les grands sont là, mais également il y a eu des surprises, l'Allemagne qui n'est plus là, l'Espagne qui est sortie par le Maroc. Je crois que ce sont des habitués à ce niveau de la compétition. Là, on peut parler des surprises.
Vous vous dirigez Africa Top Sport, vous êtes situé au Togo. Cette victoire du Maroc, c'est important bien entendu pour l'ensemble du continent africain.
Oui, pour l'ensemble du continent africain, mais il y a toujours un conflit au niveau des langages. Surtout, vous savez qu'il y a l'Afrique subsaharienne, il y a également le Maghreb, il y a certains joueurs qui ne se considèrent pas comme africains. Donc déjà, les propos, les déclarations de certains joueurs, par exemple, comme Boufal, frustrent énormément ce public qui se retrouve au niveau de l'Afrique subsaharienne, même si le coach Regragui essaie d'arranger les choses au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ça a été pris très très mal, mais on se dit que le Maroc étant un pays de l'Afrique, on va le soutenir parce que les autres sont déjà partis, que ce soit la Tunisie, le Ghana, le Cameroun et puis le Sénégal. Donc, on n'a que nos yeux sur le Maroc. Donc, on va soutenir justement le Maroc. Même si au niveau donc des chiffres, par exemple, au niveau de l'Africa Top Sport, lorsque un pays africain joue, donc on arrive à faire des chiffres et tout. Je crois que le Maroc représente très bien le football africain parce que il fait partie également des pays africains qui se sont qualifiés et également participe souvent à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Donc je pense que le Maroc reste toujours un pays sur lequel on peut compter pour justement briser le signe indien, c'est-à-dire franchir le cap des quarts de finale et aller en demi-finale. C'est ce que l'Afrique n'a jamais connu.
Ce qui est possible désormais aujourd'hui.
Oui, c'est possible. C'est possible. Il faut compter avec ce Maroc-là. Et surtout, le travail qui se fait derrière, hein, ça, il faut également le souligner. Le président de la Fédération de foot marocain et également tout son staff, il faut le souligner, ce sont des gens qui s'impliquent davantage dans les choses du football. Quand on voit les infrastructures au niveau du Maroc, quand on voit également les formations qui se font au niveau du football des jeunes, je crois que tout cela mis ensemble qui permet justement au Maroc donc de passer justement les étapes et de gagner en confiance et de titiller les grands clubs, même si aujourd'hui plusieurs joueurs marocains sont en Europe, quand on prend par exemple le latéral droit par exemple qui est au Paris Saint-Germain, donc qui est en temps formé par le Real Madrid et qui est né d'ailleurs en Espagne et tout ça, qui a été formé là, qui est revenu jouer, porter la tunique du Maroc. Je crois qu'il y a plusieurs joueurs comme ça qui se retrouvent de l'autre côté, mais qui arrivent quand même à porter main forte à la sélection marocaine.
Franck Orokoti, journaliste, directeur d'Africa Top Sport au Togo. La mort dimanche dernier de Betul Fekar Lombiot. Elle a été la première femme musulmane à participer à l'organisation du culte musulman en France. Elle était âgée de 93 ans. Betul Fekar Lombiot est l'autrice d'un témoignage intitulé « La double présence aux éditions du Seuil ». Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash. 17h30 pour le journal. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, le grand vieillissement de la population, une révolution silencieuse, les invités d'Alexis Bachelet, Luc Broussy, président de la Silver Economy, et Maxime Zbahi, économiste, auteur du grand vieillissement aux éditions de l'Observatoire. Il est 12h17. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.